Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. C'est la nature et plus précisément les montagnes qui la guérissent. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nawel Svendla, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Nawel?
Ça va. Merci beaucoup Yasmine et merci infiniment pour l'invitation.
Mais c'est un plaisir.
Je suis très très fière et très contente d'être là avec toi pour pouvoir échanger.
Merci infiniment à toi. Alors dis-moi, tu es où? Tu es où aujourd'hui?
Je ne suis pas encore sur un toit.
Oui, c'est ça. C'était ça le but de ma question. Est-ce que tu es sur un sommet?
Non, pas encore. On y travaille. Je suis encore à Casablanca pour l'instant, toujours dans ma recherche de sponsors, toujours dans le peaufinement de mon projet, Inch'Allah, pour pouvoir repartir de plus belle et lever à nouveau fièrement le drapeau marocain, Inch'Allah.
Inch'Allah. Alors justement, Nawel Svendla, alpiniste et coureuse, à seulement 34 ans, combien de sommets déjà, Nawel?
Ouf, plus d'une cinquantaine, étant
donné
que le Maroc, j'ai fait tous les sommets du Maroc. Le Seven Summits Challenge, j'en ai fait déjà 5, j'en ai fait d'autres en dehors. Et les 8000 mètres d'altitude, j'en ai déjà fait deux. Donc c'est pas mal. Mais je m'éclate en toute honnêteté au Maroc. On a un pays incroyable et une nature qui est juste magnifique et sublime, qui est d'ailleurs très recherchée et très demandée par les étrangers. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de pouvoir en profiter pleinement. Elle est juste incroyable et on a des sommets qui sont magnifiques. Du coup, c'est et mon terrain de jeu et mon terrain d'apprentissage. Et c'est toujours un bonheur que de repartir sur place pour pouvoir découvrir à nouveau de beaux sommets.
Ça t'apporte quoi? Justement, quand tu montes, quand tu escalades.
Ouf, je pourrais disserter sur ça.
Ouais. Alors, ça t'apporte quoi? Et j'ai aussi envie de savoir, est-ce que c'est tout le processus de la décision à la préparation, à l'adrénaline du sponsoring, etc., jusqu'à l'arrivée que tu recherches, en fait, que tu savoures, ou bien c'est vraiment une fois que tu es au pied de la montagne et que tu démarres ton ascension?
Alors, Yasmine, merci beaucoup pour ta précision concernant cette question, étant donné que c'est vraiment quelque chose qui me travaille et pour lequel j'essaie de communiquer un maximum pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ce projet-là. Alors, pour te répondre, c'est vraiment le tout. Moi, dès lors que je sais que je vais poser le pied, que c'est bon, je vais être à l'aéroport, pour moi, j'ai déjà réussi. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, ils ne voient que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, à savoir j'ai réussi ou bien je me suis arrêtée à tant de mètres en ce qui me concerne. Mais ils n'ont aucune idée du gros travail qu'il y a derrière. C'est de la gestion de projet pure et dure que je mène toute seule. C'est de la strate de communication qui est à chaque fois développée et mise à jour continuellement en fonction de l'évolution du marché. C'est une étude des marques et du type de sponsoring qu'ils offrent. C'est une étude également de la montagne en question, de sa spécificité, de ses locaux, de sa culture, de sa situation démographique. C'est vraiment un travail énorme derrière, ce qui fait que dès lors que j'arrive à trouver les financements pour une ascension, c'est une fierté pour moi, parce que je sais que ce travail-là, c'est dur. Il n'est pas facile, c'est des nuits blanches des fois, c'est des discussions continuelles à n'importe quel moment, ça peut être un déjeuner entre amis, un dîner entre amis, je bifurque automatiquement vers ça tellement c'est un projet qui est prenant pour moi. Donc dès lors que c'est bon en ce qui concerne le financement, j'en suis très très fière. Et la réussite du sommet, ce n'est que la cerise sur le gâteau, on passe à un autre stade, un stade beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. Une fois que je suis sur place, c'est la quête de mon évolution personnelle en tant que femme, en tant qu'individu. C'est le fait de profiter pleinement de chaque instant de la nature, le respect de la montagne, ce qu'elle apporte parce qu'elle est parlante et pour savoir et ressentir le fait qu'elle soit parlante, il faut faire un travail sur soi. Donc, c'est réellement de la gestion de projet de A à Z.
Voilà. Ce n'est pas qu'un projet sportif, même si le projet en soi est très gros, très important, mais ce n'est pas que sportif, en fait. C'est aussi financier, c'est de la com, c'est du marketing, c'est de la gestion de projet. C'est mental, absolument. Absolument. Alors justement, quand je dis ça t'apporte quoi, c'est à tous ces niveaux-là, tu as d'abord commencé d'emblée à parler d'études de marché, de comprendre les marques, les sponsors potentiels. Mais ça vient pas de rien, en fait. Tu as été formé à ça. Tu as fait des études en marque et en réputation d'entreprise, en stratégie, en management, en création d'entreprise, justement. Et tu as bossé dans ça.
Oui, exactement. Et c'est quelque chose que j'aime partager parce qu'aujourd'hui, les gens rêvent beaucoup, mais ils ne se donnent pas beaucoup les moyens. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours un lien avec les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment les approcher de manière intelligente et structurée. Il faut se donner les moyens, mais il faut se battre derrière. Ce qui a pu m'aider justement et ce qui a fait accepter ce projet-là à mes parents qui sont carriéristes et qui nous ont poussé, mes frères et sœurs, à pousser le plus loin possible nos études, à avoir une carrière professionnelle, à gravir les échelons rapidement, à être épanouis dans notre travail. Mais pour qu'ils puissent accepter ce projet-là, ils étaient rassurés par rapport au fait que j'ai mes diplômes derrière moi, dans la communication, dans le marketing, que j'allais justement utiliser tout ce que j'ai appris, toutes mes compétences, que ce soit en école comme en entreprise, pour pouvoir faire vivre ce projet-là et le transformer en un réel projet, en une réelle marque. Aujourd'hui, je vends la marque Nawal Sfondla. Ce n'est pas juste une passion, c'est devenu un métier aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a derrière la maîtrise de la communication et de son évolution. Ça aide énormément.
Absolument. Alors, par rapport à ça, justement, tu as dit une chose très importante. Tu as dit les gens ne voient que ce qu'on montre, que la réussite, mais ne se donnent pas forcément le moyen. Les gens rêvent beaucoup, mais ne se donnent pas les moyens. Est-ce que tu as déjà eu des commentaires de jeunes, des plus jeunes peut-être? J'imagine que les moins jeunes, ils sont un peu plus tempérés, enfin, je sais pas. Voilà, qu'est-ce qui t'a le plus choqué comme peut-être revendication de la part des jeunes?
C'est cette facilité-là à passer du rêve à la concrétisation. J'ai aujourd'hui des personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux en me disant « Nawal, bravo pour ton parcours. Moi aussi, j'ai envie de commencer à faire ce que tu fais. » Déjà, un conseil, il ne faut pas faire comme ce que font les autres.
Absolument.
Si l'on n'y croit absolument pas, il faut pouvoir étudier ce que fait cette personne-là qui t'inspire pour trouver ce qui va te plaire toi et te permettre de t'épanouir personnellement. Sinon, ça ne marchera pas. Déjà, ça, c'est une petite parenthèse. Et donc, je reçois un message, et ça, c'est un message qui m'a marqué, un jeune qui a fait des études d'ingénierie et qui me dit « je n'ai pas trouvé de travail », alors qu'il vient tout juste d'être diplômé, et j'aimerais me lancer dans ce que tu fais. Est-ce que tu as des contacts de sponsoring, etc. ?» Je suis toujours partante pour aider les jeunes, mais par contre, pas de cette manière-là. Oui. Donc, j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit, et c'est ce que j'aime dire à tous les jeunes, donnez-vous les moyens. Ce jeune-là, par exemple, concrètement, il a juste prouvé qu'il n'a pas fait suffisamment de recherches parce qu'il se limitait juste à sa propre ville. Je l'ai conseillé d'aller voir ailleurs, d'autres villes. Il n'y a pas que sa ville de naissance, qu'il faut savoir pousser et que pour pouvoir se lancer dans des projets d'une envergure assez importante et à gros risques comme celui-ci, il faut savoir que l'alpinisme, c'est le sport le plus dangereux avec un taux de mortalité très élevé. Il faut pouvoir être backé derrière. Il faut être solide et savoir ce sur quoi travailler. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent, ou plutôt montrent aux très jeunes, que tout est facile. Lorsqu'on voit un jeune qui met en avant des choses matérielles qu'un jeune normalement ne devrait pas avoir, on montre que tout est facile, donc on ne valorise plus les choses. On ne connaît pas cette connaissance de la valeur de l'argent, Alors que c'est des choses que nos parents nous inculquent, mais que certains jeunes finissent par oublier au vu de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, ça me fait peur, honnêtement, parce que je vois comment ça évolue aussi. Et cette facilité-là, je me dis que ces influenceurs, par exemple, ces gens qui postent à tout va sur les réseaux sociaux, ils devraient être responsables et penser à l'avenir des jeunes, justement. Ils devraient être contrôlés un petit peu parce que certaines personnes se lancent dans ça et finissent par commettre des choses irréparables.
Ouais. Mais alors,
donc,
attends,
tu
parles de ça.
C'est un retour qui est dommage, qui peut ruiner toute une vie. Donc c'est vraiment, il faut qu'il puisse y avoir un contrôle. Les rêves, c'est bien beau de rêver. C'est bien beau d'avoir des objectifs très élevés, parce que quand ils sont très élevés, on travaille ardument et on ne baisse pas les bras. Mais justement, il ne faut pas baisser les bras, parce que pour atteindre ces rêves, on a beaucoup de portes qui sont fermées. Mm. Il faut se donner les moyens de trouver la clé pour pouvoir les ouvrir.
Alors, tu parles beaucoup de rêves. Toi, ce rêve, d'abord, est-ce que c'était un rêve de devenir alpiniste, d'en faire ta carrière, d'en faire ton métier?
Alors, en toute honnêteté, rêve, non. Ce n'était pas mon rêve de devenir alpiniste. Jusqu'à aujourd'hui, on en rit avec mes parents parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à y croire. Cependant, j'avais un rêve justement dans ce domaine-là. Et c'est suite à un voyage au Népal et au Tibet en 2013 où j'avais vu, c'était un voyage avec mon frère, donc un moment très 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 fort, et j'avais vu l'Everest. Et je m'étais fixée comme objectif de le gravir un jour. Donc mon rêve dans ce projet-là, c'est réellement l'Everest. Pas pour la performance, ni l'Everest, je suis très contente. On est 6 à peu près, 6-7 Marocains à l'avoir fait, ce qui est super, c'est génial. Mais ça a une histoire derrière pour moi, ce sommet-là. Et en fait, pour pouvoir le préparer, j'ai pensé à ce projet-là en faisant mes recherches. Et je voyais qu'il était assez connu. Et puis au fur et à mesure, la montagne m'a ouvert ses portes et m'en a appris davantage, non seulement sur le domaine de l'alpinisme, mais principalement sur moi-même, étant donné qu'il faut savoir que ce projet-là, je l'ai débuté sur une base de mal-être. Je n'étais pas bien dans ma vie à ce moment-là, que ce soit d'un point de vue professionnel et personnel. Et c'était tout le temps le sport le sport était mon encre, et principalement la course à pied. Dès lors que j'ai commencé, chaque sommet, c'est ça ce que j'adore dans ce milieu-là, chaque montagne que j'ai gravie, ou du moins sur laquelle j'ai été présente, m'a appris de nouvelles choses. Aujourd'hui, j'en arrive même à dire que le Toubkal que j'ai fait plus d'une dizaine de fois, à chaque fois que je refais le Toubkal, j'apprends quelque chose de nouveau. Tellement la montagne m'a appris à m'ouvrir à elle, à l'écouter, et c'est quelque chose qui doit s'appliquer à tous les domaines. Lorsqu'on a envie de réaliser un rêve, lorsqu'on a envie de réaliser un projet qui est assez important, il faut être ouvert et non fermé, fixé sur son objectif. Il y a des embûches sur tout le chemin. Comme il y a plein de roses, plein de belles choses sur tout le chemin, il ne faut pas être ouvert juste aux choses positives. Il faut être ouvert aussi aux choses négatives pour ne pas justement se frustrer et pour savoir comment bien réagir et continuer quand même. Peut-être plus lentement, mais continuer, ne pas être à l'arrêt. Et c'est ce que la montagne m'a appris, et c'est magnifique. Et pour rien au monde, je renoncerai à ça.
Alors, quand tu dis « la montagne m'a appris », comment une montagne apprend à un humain? Comment la montagne t'a appris à toi? C'est quoi cette connexion? Est-ce que tu peux mettre des mots sur ces émotions?
Honnêtement, je peux décrire, mais pour mettre des mots, c'est compliqué. En toute honnêteté, dès lors que je pose les pieds en montagne, je lève la tête. Une montagne, ça, quand on est face à elle, elle est majestueuse. Ça n'a rien à voir avec les photos. Elle est majestueuse. Il y a un silence qui est poignant, mais positivement, et qui aspire. C'est comme ça que je ressens personnellement les choses, qui aspire toute négativité, tout problème, tout stress. Personnellement, ça part. Je suis concentrée sur la montagne. C'est une sorte de méditation continuelle. Et à chaque moment, tu sais, la montagne, j'ai déjà eu des expéditions où je restais plus d'un mois en montagne, dans des conditions extrêmes, une mauvaise météo. Et ce n'est pas pour autant que je n'appréciais pas. La montagne, elle est tellement imposante, même lorsqu'on commence à la gravir, qu'elle prend un petit peu le dessus sur nous-mêmes. Et après, bien évidemment, il y a l'aspect, je pense que c'est ça aussi qui fait que je l'appréhende de cette manière-là, il y a le côté spirituel aussi. Je suis une personne très croyante et le fait de me retrouver avec la montagne qui est sacrée dans notre religion, c'est quelque chose d'encore plus fort qui me rend encore plus humble, plus modeste et plus respectueuse face à cette beauté.
Alors, justement, Nawal, tes parents les vivent comment ?
C'est toujours difficile, c'est toujours très difficile. J'ai eu plusieurs discussions avec eux pour pouvoir justement les convaincre. Je leur ai fait une parole, je leur ai dit, je sais que je prends des risques, je sais que le taux de mortalité est élevé, mais je promets à mes parents à chaque fois, et ça c'est en même temps en accord avec mon agence d'alpinisme, il y a des limites à ne pas dépasser. La ligne rouge, il y a certains alpinistes qui peuvent la dépasser. Je ne peux pas parce que mes parents, je ne veux pas qu'ils puissent être inquiets à ce point-là.
Ils Mais l'alpinisme en soi est dangereux, tu l'as dit, c'est le sport le plus dangereux.
Oui, exactement. Ils le savent et ils le conçoivent. Après, bon, bien sûr, j'essaie de les rassurer. Je partage tout avec mes parents, le bon comme le moins bon. Mais c'est vrai que là, au vu de mon niveau en alpinisme qui est professionnel, avant de partir en expédition, en toute honnêteté, on a beaucoup de formulaires à remplir. Et aujourd'hui, je commence à remplir des formulaires de décès.
Ah oui.
Et c'est des choses que je ne montre pas à mes parents.
D'accord.
En toute honnêteté, non.
Tu le vis comment, quand tu remplis ça ?
Ah, c'est un moment très très douloureux pour moi. Je pleure beaucoup parce que on rentre dans les détails. On parle de rapatriement du corps. La dernière fois, par exemple, on avait des options par rapport au rapatriement. Est-ce que on le met dans une crevasse et on fait une prière ? Est-ce qu'on l'incinère ? Est-ce qu'on le rapatrie au Maroc ? Dans ce cas-là, il faut le contact de l'ambassade. J'avais l'impression d'être dans le vrai avant même d'avoir débuté cette expédition-là. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, oui, je pleure, c'est comme ça. Je suis sensible, c'est normal, on parle de ma vie. Mais c'est quelque chose que j'intègre parce que je sais exactement ce que je fais. Et c'est aussi un sujet que j'aborde avec ma communauté où je leur dis, il faut vraiment analyser tous les projets que vous souhaitez faire. Parce qu'il y a du bon et du moins bon, il y a du grave et du moins grave. Et il faut pouvoir l'assimiler et l'accepter. Parce qu'une fois que vous l'avez assimilé et accepté et bien étudié, vous saurez bien réagir. C'est ce qui m'était arrivé. Lorsque j'ai été coincée dans une avalanche à 7000 mètres d'altitude, j'aurais pu paniquer et mettre en danger non seulement ma vie, mais aussi celle des autres alpinistes. Mais non, parce que j'avais tellement étudié justement cette prise de risque, et pour en avoir conscience, je suis restée très calme. En toute honnêteté, j'ai lu le Coran et Shahed, parce que je me suis dit, c'est mon moment, c'est pas grave. Mais mon corps était tellement concentré sur ce moment catastrophique que je voyais devant mes yeux, qu'il a développé quelque chose, bon, je ne saurais pas décrire complètement aujourd'hui, mais il a développé des techniques de protection à tel point que ça a réactivé l'énergie qui était complètement enfouie en moi. Et du coup, je me suis accrochée avec mes crampons et mon piolet à la montagne. Et c'était très difficile par la suite de pouvoir enlever le piolet et décrocher mes crampons. Donc voilà la force du corps, parce que mon esprit était connecté et il était zen. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parce qu'on ne se lance pas dans des projets comme ça et des sports extrêmes comme ça juste pour avoir une certaine notoriété, pour dire qu'on l'a fait ou pour montrer que tout est facile et tout est faisable. Non.
Alors, j'ai quand même deux autres questions par rapport à ça. D'abord, est-ce que tu sais que tes parents risquent d'entendre, d'écouter ce podcast ? Et donc là, tu fais certaines révélations que tu as toujours évitées avec eux. Tu le sais, ça ne te dérange pas ?
Écoute, je vais éviter de leur faire écouter la partie où je t'ai parlé.
D'accord. Et l'autre question, c'est est-ce que tu t'attendais à ça quand l'aventure a démarré ? Est-ce que tu t'attendais à autant de peur, à autant de danger ?
En toute honnêteté, et ça rejoint ce que j'ai pu dire au départ, dans la première question. Je savais très bien, j'ai bien pensé ce projet-là. Mmh. J'ai pris mon temps pour bien réfléchir. Ça a duré des semaines et des semaines avant de me décider de quitter mon travail, de me lancer dans ce domaine-là. Et ça n'a pas été une réflexion à la légère. J'ai étudié ce milieu-là. J'ai vu beaucoup de documentaires. J'ai contacté beaucoup d'alpinistes étrangers, même des ultra-trailers. J'ai discuté avec beaucoup de personnes pour savoir ce dans quoi je me lance. Donc, j'en avais conscience. Ça, c'est une chose, déjà. Mais par contre, sur le terrain, c'est autre chose, effectivement. Parce qu'il faut savoir que la montagne est imprévisible. Mmh. La météo est complètement imprévisible. C'est pour ça que je parlais de cette force mentale qu'il faut travailler aussi. C'est pour ça que je parlais de cette capacité à gérer les risques, à rester concentré, qui est primordial avant d'arriver sur le terrain, parce que je l'ai vécu. Mmh. J'ai vécu plusieurs avalanches, j'ai vu des morts devant moi débouler la montagne, j'ai vu des blessés devant moi, devant la tente. C'est quelque chose qui est très très intense. C'est des scènes que j'ai vécues où aujourd'hui, en toute honnêteté, quand je m'en rappelle, je suis très très fière de moi. Mmh. Malgré la catastrophe qu'il y a eu, je suis très fière de moi parce que je me dis, Nawel, tu as su bien appréhender toute la situation, bien la gérer. Ça t'a fait mal à l'instant T, mais tu as grandi en sortant de cette aventure. Et c'est ça mon objectif principal aujourd'hui. Chaque sommet que je fais, qu'il puisse y avoir sommet ou pas, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est de ressortir de chaque expérience grandie, améliorée avec de nouvelles compétences et de nouvelles visions et de nouvelles idées par rapport à ce que j'ai envie de faire par là-dessus.
Nawel Skenfell, c'était vraiment super de discuter avec toi, hein, vraiment, beaucoup.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.